Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, une amoureuse des formes et des couleurs dresse pour nous des portraits de la diversité qui nous entoure. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs?
Je m'appelle Aurélie Lepillier, j'ai 42 ans, deux enfants. J'ai vécu une bonne moitié de ma vie en ville, avec un tout petit jardin enfermé entre quatre murs. Mais j'ai toujours été attirée par la nature, les arbres, les animaux. Et heureusement, mon père avait un jardin potager, plutôt une chance pour être très tôt au contact de la terre, prendre conscience en fait de tous les bienfaits de cultiver par soi-même. J'avais aussi un fort attrait pour tout ce qui touche au domaine artistique, un peu plus tard la photographie, mais surtout la création en général visuelle. Et ce qui m'a amené à travailler une vingtaine d'années dans le domaine de la communication en général, dans différentes entreprises de l'agglomération lilloise. Et j'ai débuté donc dans l'événementiel, l'organisation de salons. J'ai travaillé en radio, dans le domaine de la santé, et puis une petite dizaine d'années aussi dans le secteur de la presse magazine, un magazine d'info-loisirs. Alors là, c'était à Boulogne-sur-Mer, on change de cadre. J'ai eu la chance de voir la mer tous les jours avant d'aller travailler. J'habitais à l'époque donc un petit village à la campagne. Et dans ce cadre plus naturel, avec aussi mon nouveau rôle de maman, c'est ça qui m'a un peu influencée. J'avais vraiment le sentiment d'éveiller ma conscience à l'environnement, en fait. Alors, j'ai toujours eu le respect de la nature, mais je dirais plutôt la conscience du rôle que je pouvais avoir autour de moi, en fait. L'impact de mes actes, de mes achats, les produits que je consomme, que j'utilise aussi pour mes enfants, sur mes enfants. Surtout me poser des questions, en fait, est-ce que c'est nocif ou pas. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à ce que je consommais et à consommer autrement, à essayer de limiter aussi mes déchets. Alors, forcément, c'est pas facile de changer ses habitudes, mais on y arrive petit à petit, un objectif après l'autre. Alors, il y a 6 ans, j'ai dû suivre mon conjoint dans son changement professionnel, et donc déménager. Et je suis revenue dans la métropole lilloise. Alors, à ce moment-là, je cherchais un travail, donc j'ai atterri dans le secteur du numérique, toujours dans la communication, les réseaux sociaux. J'étais un peu à la traîne d'ailleurs, parce qu'à Boulogne-sur-Mer, c'était pas comme à Lille, donc les réseaux sociaux étaient beaucoup moins demandés. Donc j'ai dû refaire une formation, etc. Et je pensais sincèrement que c'était ce qu'il me fallait. C'était comme un nouveau challenge pour moi. Et puis le Covid est passé par là. Et là, ça remet plein de choses en question. Mais en fait, au final, mois après mois, je commençais clairement à m'éteindre, en fait, sans m'en rendre compte. C'était insidieux, c'était petit à petit. Je perdais ma joie de vivre. Je voyais plus de sens dans ce que je faisais. Et en fait, j'étais complètement perdue et malheureuse, du coup. Et comme j'ai tendance à me dire que parfois la vie ne nous met rien par hasard, en fait, sur notre chemin, c'est quand même grâce à ce boulot-là que j'ai croisé la route de l'association des planteurs volontaires. Du coup, en participant avec mon ancienne entreprise à l'un de leurs chantiers de plantation. Et là, j'ai trouvé ce qu'ils faisaient, c'était vraiment génial. Ça a été une petite révélation. Et j'ai senti que c'était ça que je voulais faire. Alors, je savais pas comment. Je connaissais pas trop leur métier exactement et ils cherchaient une personne à ce moment-là pour les assister dans leur mission. Œuvrer tous les jours pour l'environnement, replanter des arbres là où il y en a plus, surtout dans notre région qui manque cruellement d'espace naturel, c'était le must pour moi, en tout cas là, à un moment de ma vie où j'avais besoin de sens. Donc j'ai sauté sur l'occasion et ça fait maintenant 2 ans que je suis très heureuse de faire partie de l'équipe des planteurs volontaires.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en 3 mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Alors, pour moi, ce serait d'abord une couleur, le bleu turquoise. coup, ça en fait deux. Hein. Je triche un peu, mais c'est un mélange de bleu et de vert. Bah, je dirais le vert bah, pour les végétaux qui nous fournissent tant de bienfaits. Et le bleu, tout simplement pour l'eau, à l'origine de toute forme de vie. Une odeur. Et alors là, ce serait vraiment l'odeur enivrante de la terre mouillée après la pluie en été. Je suis sûre qu'on est nombreux à aimer cette odeur si particulière quand on a la chance de la sentir. Et c'est encore grâce aux plantes, du coup. La texture, et là je reste un peu dans le même univers, mais le sol forestier, si on peut appeler ça une texture, mais quand même, on le sent quand on marche dessus, c'est un mélange vraiment particulier, de particules organiques, minérales, de mousse, d'organismes vivants, de racines, d'air, d'eau, enfin l'humus quoi, qui donne cette sensation de marcher, non pas sur une masse compacte, mais un système ouvert et poreux, et qui donne cette sensation si particulière, je trouve ça fabuleux. Alors le goût, bah, je dirais celui d'un légume, d'un fruit, peu importe, mais qu'on fait pousser soi-même. Parce que c'est vraiment complètement différent de ce qu'on peut acheter en supermarché. Le vrai bon goût d'une tomate qu'on cultive soi-même, ça n'a rien à voir. Et le son, je partirais sur le chant des oiseaux parce que c'est vraiment pour moi ce qui symbolise la nature et le vivant par excellence. Juste s'imaginer un monde sans eux, enfin, sans chant d'oiseaux. En pleine nature, je trouve que ce serait vraiment insupportable. Un silence qui serait même flippant. Donc trois mots qui définissent le vivant. L'eau, puisque c'est à l'issue toute forme de vie. La nature, puisqu'on fait partie de la nature. Et l'énergie aussi. C'est pas que des êtres vivants. Il y a aussi une énergie qui circule et qui nous unit tous en fait.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Alors, c'est assez simple parce que quand on travaille tous les jours pour une association environnementale, pour ma part, ça va plutôt se traduire surtout dans la communication que je vais faire pour l'association. Par le choix des mots, des idées, des photos, pour illustrer en fait justement le vivant et pour donner envie aux personnes de s'impliquer à nos côtés. Pour replanter ou protéger aussi ce qu'on a déjà. Donc, rien que ça, ce serait de transmettre en fait cette envie d'implication. Et j'avoue que depuis quelques temps, je pense aussi aux enfants, à l'impact que l'on peut avoir sur eux dès le plus jeune âge, par le biais d'ateliers. Ça peut être des plantations, construction de nichoirs à insectes ou oiseaux, comme on peut faire aussi au sein de l'association. Ça permet de leur éveiller les consciences et de les reconnecter un peu à la nature dont ils font partie, bien sûr. Mais sa petite personnage, j'ai eu l'occasion de faire un atelier de bombes à graines dans la classe de mon fils, en grande section. Et j'ai adoré parce qu'ils sont hyper réceptifs. Et malheureusement, je me suis rendu compte que certains aussi n'avaient jamais mis les mains dans la terre, quoi. Ils étaient mal à l'aise, ils trouvaient ça sale. Et en fait, je me rendais même pas compte, moi, que c'était possible, puisque moi, je suis toujours un peu baignée dedans quand même, mes enfants aussi, donc je me rendais compte que bah non, tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir le faire, et c'est là où il y a quelque chose à faire, pour qu'ils grandissent avec leur environnement et non pas à côté, complètement déconnectés. Donc voilà, ça c'est mon petit projet personnel que j'aimerais bien, même pas forcément dans le cadre de l'asso, mais en tout cas, pouvoir développer peut-être dans quelques années.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Pour moi, l'humain n'a finalement rien à apporter au vivant. Parce que du coup, il fait une partie intégrante de ce vivant. Objectivement, on n'a pas plus de valeur qu'un arbre, un poisson ou une fourmi. L'humain a juste évolué différemment. On a tous la même origine, en fait, le même ancêtre commun, la fameuse première cellule qui a vu le jour sur Terre il y a des milliards d'années. Donc, voilà, pour moi, l'humain, en général, c'est plutôt totalement déconnecté de ce vivant et il se croit un peu à part ou supérieur. En tout cas, dans la majorité, bien sûr, heureusement qu'il y a de plus en plus d'exceptions et que les gens commencent à se rendre compte et se reconnecter. Mais globalement, dans cette masse humaine, là, on manque quand même totalement d'humilité par rapport à la nature. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, face à de graves problèmes climatiques en cours et à venir, face à la sixième extinction de masse du vivant. Pas réjouissant, mais on peut comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Voilà, on s'est peut-être cru un peu supérieur à et pas faisant partie d'eux. Et on devrait, pour moi, plutôt se demander ce que l'ensemble du vivant peut apporter à l'humanité. Notre civilisation, en tout cas, parce que c'est pas le cas de toute l'humanité non plus, Mais notre civilisation est partie dans une quête de croissance sans intégrer l'aspect de la nature et qu'il y a tout à une fin, en fait, qu'on ne peut pas consommer à outrance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, quoi. D'autres l'ont compris bien avant nous, hein, bien sûr, on peut parler de certaines communautés qui vivent totalement en harmonie avec la nature, ils n'ont aucun impact néfaste, en fait, sur cette nature, et eux font partie intégrante de ce vivant. D'ailleurs, ils le respectent et on voit la différence, en fait. Pourtant, on est humain aussi, hein, mais on n'a pas du tout la même vision des choses. Et c'est vraiment ça qui nous a perdus, en fait, dans notre civilisation, enfin, disons, moderne, entre guillemets. On ne fait plus rien par rapport à la nature, en fait. On ne la prend pas en compte.
On va passer à la question d'actualité. Le 5 août dernier, une étude scientifique des plus intéressantes a été publiée dans Frontiers in Plant Science. Celle-ci s'intéresse à l'effet de la pollution lumineuse sur les feuilles d'arbres. La lumière artificielle nocturne exerce une pression croissante sur les écosystèmes naturels. Mais son impact sur les interactions biologiques reste encore peu connu. Cette étude visait donc à évaluer comment cette pollution lumineuse influence ce qu'on appelle les traits fonctionnels des feuilles et l'herbivorie chez deux espèces d'arbres de rue assez répandues, à savoir le Sophora japonica et un frêne, au moyen d'enquêtes sur le terrain et d'expériences dans les zones urbaines de Pékin, en Chine. Les premiers constats de l'étude montrent que cette exposition nocturne à la lumière entraîne une augmentation de la résistance des feuilles et une diminution des niveaux d'herbivorie des feuilles. Ce qui signifie que certains traits fonctionnels et processus écologiques clés, notamment le cycle des nutriments, les flux d'énergie, sont largement entravés par cette pollution lumineuse. Globalement, celle-ci remet en question la survie même des écosystèmes en milieu urbain. Pour résumer, cette étude annonce un changement dans la constitution des feuilles, les rendant moins disponibles pour tous les organismes qui contribuent à créer de l'humus, ce qui nourrit le sol et tout le vivant qui en dépend, humains inclus. En effet, si les feuilles durcissent, plusieurs organismes n'auront pas la capacité de les transformer en matière fertile. Cela s'ajoute en plus de toutes les conséquences de la pollution lumineuse que nous connaissons déjà. Modification des cycles naturels des êtres vivants à proximité de ces sources lumineuses, superprédation des insectes attirés par les sources de lumière, les lampadaires, et perturbation des chaînes alimentaires avec des individus s'adaptant à ces sources lumineuses tandis que d'autres, en décalage, se retrouvent sans ressources lorsqu'ils en ont le plus besoin. Cette dernière découverte représente donc une menace potentielle au maintien de la biodiversité. On pense par exemple aux arthropodes. Vous savez, l'embranchement du règne animal qui représente 80% des espèces connues, telles que les myriapodes, les crustacés, les arachnides, les insectes et bien d'autres encore. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
La pollution lumineuse, c'est un vrai problème en fait de société actuellement. Cet été, il y a eu les perséides, dans le ciel, on pouvait voir les étoiles filantes, c'est magnifique. Mais effectivement, là, on se rend compte de la pollution lumineuse parce que quand on est en ville, on ne voit absolument rien. Et quand on est, moi, j'aime bien regarder les étoiles, et c'est vrai que je suis en ville et c'est frustrant parce qu'on ne voit rien, on voit à peine une ou deux étoiles, à peine, le ciel est un peu orangé. Et on s'en rend compte, en fait, dès qu'on a un peu le nez, si on lève les yeux au ciel, on se rend compte de cette pollution lumineuse. Alors, je ne savais pas, hein, pour les arbres, je savais que la pollution lumineuse était nocive pour les animaux, les oiseaux notamment. Effectivement, le cycle jour-nuit, c'est quand même un élément qui structure tous les êtres vivants. Ça, forcément que ça perturbe le comportement des animaux, hein, nous aussi, hein, cycle jour-nuit... pas pour rien que quand on prend l'avion, quand il y a un changement de pays, on est complètement déphasé parce qu'on n'est plus dans la bonne tranche d'heure, quoi. Mais ça ne m'étonne pas au final, puisqu'en fait c'est un être vivant à part entière, donc pourquoi lui ne serait pas impacté au même titre que nous, les oiseaux ? C'est un vrai problème, notamment aussi pour le gaspillage énergétique que ça inclut aussi, parce qu'il y a des éclairages qui ne sont pas du tout essentiels la nuit. à certains endroits. On se demande même pourquoi certains magasins sont éclairés. Il y a d'autres aussi systèmes de lampes qui permettent de pas éclairer tout et n'importe quoi à des mètres à la ronde, mais plutôt un éclairage ciblé vers le bas ou avec une certaine lumière qui permet de diminuer un peu l'impact. Ça, je pense qu'il y a des choses à faire. On est plutôt du genre à s'étaler de plus en plus au niveau des villes. Donc, ouais, il va falloir se poser les bonnes questions. Par rapport à nous, les planteurs volontaires, on plante des arbres. Donc, oui, forcément, ça va être, on va se sentir concerné, justement, parce que nous, on prend soin de nos arbres, en fait. On a tout un système qui permet du début de la plantation jusqu'à la fin. On en prend soin. Je veux dire, on a des partenaires, des pépinières qui nous fournissent un arbre local, des végétaux qui sont donc les mieux adaptés à notre environnement. On va les planter en hiver, donc c'est des végétaux à racines nues pour qu'ils maximisent en fait la reprise pendant qu'ils sont en dormance. Comme ça, on plante que l'hiver. Donc vraiment, c'est vrai que du coup on en prend soin et d'entendre ça, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant parce qu'au final, la pollution lumineuse va les atteindre. Il faut rien y faire là pour le coup. Ouais, il y a quelque chose vraiment à se poser. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Ça, c'est vraiment, pour le coup, un travail à étudier au niveau de la ville, de la société en général, puisqu'en fait, on ne peut pas régler ça seul. C'est pas possible. C'est des décisions qui sont prises au niveau des municipalités, l'éclairage public. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler tout seul, en tout cas, et voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Donc, le label vie... Village étoilé, oui, ça doit être certainement très recherché par les amateurs d'astronomie et les personnes qui ont la tête dans les étoiles, en tout cas. Et c'est vrai qu'on devrait prendre exemple sur ces villes et villages. Quand on lève le ciel, moi, je vois plus un ciel orangé avec quelques petites taches. À la limite, je vois mieux les satellites passer, mais pas les étoiles.
On va passer à l'agenda librairie. Quelle référence ou rendez-vous souhaiterais-tu nous communiquer ?
Un rendez-vous par rapport aux planteurs volontaires. Alors, j'invite du coup tous les amoureux de la nature et de l'arbre à venir planter cet hiver avec nous, donc les planteurs volontaires. On intervient dans toute la région de France. Donc on publiera début novembre au plus tard sur notre site internet www.planteurs-volontaires.com. Et sur aussi tous nos réseaux sociaux, on a Facebook, LinkedIn, Instagram. Notre calendrier, donc, avec toutes les dates de plantation par secteur, mais dans les Hauts-de-France, bien sûr. Donc, on plante de novembre à février, parce qu'on ne plante que des arbres et arbustes locaux, à racines nues. Et ils sont arrachés de la pépinière et plantés pendant leur phase de dormance, donc en hiver, pour du coup assurer une reprise optimale. Et alors, c'est vraiment ouvert à tous, famille, amis, salariés d'entreprise. Suffit juste de s'habiller chaudement, d'enfiler des bottes et d'apporter son pique-nique si on participe à la journée entière. Sinon, les demi-journées sont si possible. Nous, on fournit tout le matériel nécessaire à la plantation, les bêches, les pelles. Donc voilà, on passe toujours un bon moment, malgré le temps parfois un peu humide. Bon, c'est normal, c'est l'hiver. Tout le monde est toujours super satisfait d'avoir participé et de regarder son territoire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre là et je suis très heureuse de faire partie de l'équipe, mais des fois je me sens vraiment à la ramasse parce que j'ai plein de choses à apprendre, même des espèces d'arbres, je les connais pas tous. C'est ce qu'on disait souvent avec l'équipe aussi, c'est que parfois les gens, et ça paraît aberrant, mais il y en a qui se sentent pas légitimes pour planter. Du coup, ils ont du mal à passer le cap, alors qu'au final, il n'y a rien de plus simple que de planter un arbre, quoi.
Voici que cet épisode, aux côtés d'une inspirée émissaire des jeunes feuilles, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie.
Les landes palissandres,
mais l'aise tremble, tremble être noyée.